matin au Radio-Journal, le budget fédéral est déposé, le déficit atteint 40 milliards de dollars.
Le gouvernement est riche et le peuple est pauvre.
C'est le budget de Justin Trudeau, des libéraux et du NPD.
Les conservateurs et les bloquistes vont voter contre. Le nombre de demandeurs d'asile indien monte en flèche depuis quelques mois au pays.
On voit en Inde une augmentation des tensions intercommunautaires, des violences, de la discrimination envers les minorités religieuses.
Et le compte à rebours est commencé. Les Jeux olympiques de Paris auront lieu dans 100 jours. Bonjour à tous, bon mercredi, ici Marie-Christine Bouillon. Pas de grande surprise dans le budget déposé hier par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland. Non seulement le gouvernement avait-il déjà dévoilé une grande partie des nouveautés qu'il contient, mais en plus, le déficit est évalué à 40 milliards de dollars, comme le prévoyait la ministre Freeland l'automne dernier. En résumé, les dépenses sont en hausse et les revenus aussi. Jean-Philippe Robillard évoque certaines conséquences de ce budget.
Le budget qu'a présenté le gouvernement Trudeau hier va avoir des impacts sur le portefeuille des Canadiens. Ottawa va augmenter l'impôt sur les gains à capital qui sont supérieurs à 250 000 $. Le taux va passer de 50 % à 66 % dès le 25 juin. Autre changement qui va aider ceux qui veulent accéder à la propriété, les plus jeunes en particulier. À compter de mardi, la limite de retrait dans le cadre du régime d'accès à la propriété, le RAP, va passer de 35 à 60 000 $. Autre mesure, depuis minuit, la taxe sur le tabac a augmenté de 4 $ pour la cartouche de 200 cigarettes. La taxe sur les produits de vapotage a également augmenté de 12 %. Mais ce qui fait surtout réagir les gens que nous avons rencontrés, c'est l'ampleur du déficit.
Il me semble que ça fait peut-être tellement d'années qu'on nous fait des annonces et des annonces. Je vois pas beaucoup de résultats.
40 milliards, c'est beaucoup. C'est plus urgent d'être focusé sur les logements. Parce qu'on veut vraiment qu'il y ait le plus de gens qui puissent en avoir.
On appelle par en avant, puis on donne ça aux jeunes. C'est eux qui vont avoir à régler le problème.
Comme ils l'ont fait dans les dernières semaines, les partis d'opposition à Ottawa ont critiqué le budget du gouvernement Trudeau. Le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, dit qu'il n'appuiera pas le budget, tout comme le chef bloquiste, Yves-François Blanchet. De son côté, le chef néo-démocrate, Jock Mitzing, est indécis et dit qu'il doit y réfléchir. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.
La réinstauration des visas pour les Mexicains il y a un mois et demi a ralenti le flux de demandeurs d'asile au Canada, mais le nombre total de réfugiés demeure élevé. Ce sont maintenant les Indiens qui arrivent par milliers dans les aéroports. Une fois au pays, ils sont ensuite nombreux à se rendre clandestinement aux États-Unis. Romain Chouet a préparé ce reportage.
C'est des traces de voitures qui cherchaient un accès pour aller directement aux États-Unis. La frontière, elle est juste à côté.
André Labelle habite dans le village de Saint-Armand-en-Estrie.
Hier, en prenant ma petite marche dans le bois, si j'étais parti 5 minutes plus tôt, je serais tombé face à face avec deux personnes qui s'en allaient vers les États-Unis.
Ici, à la frontière entre le Québec et les États-Unis, ce sont maintenant les ressortissants indiens qui passent en grand nombre à la frontière.
On voyait les traces de pas dans la neige. Ils ont essayé de prendre un chemin qui n'existe plus.
En mars, plus de 400 Indiens ont été arrêtés par la police américaine dans ce secteur. 7 fois plus que l'an passé, à la même époque. Une telle tendance se remarque aussi dans les aéroports canadiens. Depuis quelques semaines à Montréal, des dizaines de passagers dans les vols provenant d'Inde demandent régulièrement l'asile dès leur arrivée.
On voit en Inde une augmentation des tensions intercommunautaires, des violences, de la discrimination envers les minorités religieuses.
Selon la chercheuse Catherine Vien, les politiques du premier ministre Modi sont au cœur de ce mouvement.
Donc, c'est ces tensions-là, donc les violences entre les communautés qui amènent des gens à vouloir quitter le pays pour venir, par exemple, au Canada.
Plus de 4000 Indiens ont demandé l'asile au Canada entre janvier et février. Un chiffre record et une tendance qui ne semble pas s'essouffler. Ici Romain Chouet, Radio-Canada, à l'aéroport de Montréal.
Au Manitoba, 3 joueurs de hockey de 17 ans ont été arrêtés pour des agressions sexuelles présumées survenues lors d'activités d'initiation. Ils auraient fait 5 victimes de 15 et 16 ans parmi les recrues de leur équipe. Les faits se seraient déroulés en novembre et janvier dernier dans un hôtel de Winnipeg où les joueurs logeaient pendant un tournoi. Les 3 suspects ont été relâchés et devraient comparaître le 10 juin à Winnipeg. En Colombie-Britannique, de nombreuses municipalités se préparent à affronter une saison intense des feux de forêt, alors que d'autres tentent encore de se relever des feux de l'an dernier. C'est le cas à West Kelowna, où les résidents ont tout perdu en août 2023. Le reportage de Julie Landry.
Sur le terrain de Mariko Nagata à West Kelowna, il ne reste que quelques souches calcinées. Tous les arbres brûlés ont été coupés. Mariko se souvient précisément où était la porte d'entrée de sa demeure. Revenir sur les lieux dévastés de son ancienne maison est difficile.
It feels kind of sad because I had a lot of good memories here.
Parce qu'elle y a créé tant de bons souvenirs. Depuis 8 mois, elle est prise dans les dédales administratifs de la reconstruction et espère avoir le feu vert bientôt des assureurs.
Hopefully I'll hear soon from the insurance company that I can go ahead.
Elle espère aussi trouver des gens pour construire cette nouvelle maison.
We want to rebuild. We love this property.
Tammy Thomas aussi veut reconstruire ce qui a été détruit, même si tout l'environnement autour de sa maison a été transformé par le feu.
It's not as serene.
Elle attend maintenant les devis des contracteurs et admet que tout ce processus si lent teste sa patience.
It's slow. It tests your patience.
Depuis l'an dernier, la ville de West Kelowna a émis 7 permis de reconstruction et 42 de démolition. Ici Julie Landry, Radio-Canada, Vancouver.
Les inondations paralysent les Émirats arabes unis qui déplorent un mort dans ces pluies torrentielles. L'aéroport international de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, a été forcé de détourner une partie des vols. Voici le récit de Rose Saint-Pierre.
Le long d'une avenue de Dubaï qui s'est transformée en petite rivière, un homme pousse sa voiture remplie d'eau. Sur les balcons des condominiums luxueux, l'accumulation de pluie est bien visible et s'infiltre par les portes et les fenêtres. De grands centres commerciaux luxueux qui font la marque de la ville des Émirats ont aussi été inondés. Dubaï prolonge donc le télétravail pour ses employés jusqu'à mercredi et les écoles resteront fermées dans tout le pays pour 24 heures supplémentaires. Puisque la tempête n'a pas dit son dernier mot, de nouvelles averses sont attendues. Un phénomène qui pourrait se répéter selon les gouvernements émiratis et omanais qui ont averti que les changements climatiques risquent d'entraîner plus d'épisodes du genre en plein désert. Ici Rose Saint-Pierre, Radio-Canada, à Montréal.
C'est dans exactement 100 jours que seront officiellement lancés les Jeux olympiques de Paris. Des dizaines de milliers de bénévoles se préparent à assurer le bon déroulement des compétitions, à accueillir le public et à appuyer les équipes médicales. Raphaël Bouvier-Auclair a constaté les efforts que certains sont prêts à faire pour être de la partie.
Depuis des années, Yannick Demarteau est bénévole lors de parties amateurs de handball, comme celle-ci à Ancerville, dans l'est de la France. Cet été, il vivra une toute autre expérience. C'est aux Jeux olympiques qu'il donnera de son temps.
Ça a lieu une fois tous les 100 ans, ici, en France. Et c'est de voir des grands sportifs, de voir des beaux matchs.
Une grande conférence organisée fin mars près de Paris a réuni de nombreux bénévoles parmi les 45 000 qui ont été choisis. Leur fierté s'accompagne parfois de difficultés, notamment parce qu'il n'y a pas d'aide pour se loger, et qu'une nuit d'hôtel pendant les compétitions coûtera en moyenne 450 euros à Paris.
Il y a des gens qui se font remplacer parce qu'il n'y a pas de logement.
Pour le logement et les déplacements, les bénévoles doivent donc faire preuve d'ingéniosité.
Oui, par exemple, pour venir ici, il y a beaucoup de gens qui ont fait du covoiturage, il y a des gens qui vont s'aider pour trouver des logements.
L'organisation pourrait mieux les accompagner, croit le spécialiste de l'économie du sport Pierre Rondeau, d'autant qu'il souligne que ces milliers de bénévoles sont essentiels au fonctionnement de l'événement.
Donc une très grosse économie réalisée grâce à leur rapport de force de travail.
Yannick Demarteau, lui, croit avoir trouvé une solution pour contourner les problèmes de logement. C'est dans sa roulotte qu'il entend passer une partie de l'été.
J'ai ce camping-car-là, donc je me suis dit, on y va, quoi.
Impossible pour cet amateur de sport de ne pas vivre cette expérience unique. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Ancerville.
En terminant, la sélection du jury se poursuit pour une troisième journée au procès de Donald Trump à New York. Les 7 premiers jurés ont été choisis hier. Il en manque encore 11. 3 femmes et 4 hommes ont ainsi obtenu le feu vert pour siéger au sein du premier jury jamais constitué pour juger un ancien président américain poursuivi au criminel. Donald Trump est accusé d'avoir falsifié des documents financiers pour dissimuler le remboursement d'un paiement à une actrice de films pornographiques afin d'acheter son silence. Voilà, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada. De retour à votre émission matinale.